18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver, vous le savez, vous êtes à quelques minutes, quelques heures pour ceux, celles et ceux qui sont peut-être en train de vivre les premières minutes, les premières heures des vacances de la Toussaint. Quelle chance formidable, chers amis, eh bien nous, n'oubliez jamais, partout où vous soyez, eh bien la radio est là pour vous accompagner. D'abord, une application, vous le savez, je vous le rappelle en permanence, l'application Beurre FM qui vous accompagne en permanence. Allez les informer, votre émission de 18h à 19h30. Alors, quel programme je vous propose? Au sommaire de cette émission, c'est parti, vous savez, on va recevoir le patron, le président du département de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, c'est le président donc de la Seine-Saint-Denis, monsieur Stéphane Troussel, qui est avec nous et qui répondra aussi à vos questions. Mais il a surtout écrit un ouvrage. Il est avec nous sur le plateau en direct pendant une demi-heure, justement, sans tabou. D'ailleurs, on va traiter tous les sujets. D'ailleurs, à quelques jours, il nous annoncera, vous savez, dans quelques jours, il sera en Algérie, justement pour des raisons mémorielles. Il va travailler à la rencontre d'acteurs, notamment, pour les tirs sur place en Algérie. Et puis, vous savez, les débatteurs influenceurs. Le Quoi de Neuf d'abord, Michel Taube, comme chaque vendredi, et son édito, son billet d'humeur. Il viendra nous parler certainement, vous savez quoi, de l'actualité qui est en ce moment à Bruxelles. Michel Taube, qui est le patron, je le rappelle, d'Opinion Internationale. Eh bien, il sera avec nous tout à l'heure à 18h30 précise. Alors, les débatteurs influenceurs, eux, ils viennent de 18h30 jusqu'à 19h30. Ils viennent confronter leur point de vue. Nous avons retenu plusieurs sujets, d'ailleurs, qui ont retenu notre attention. D'abord, on viendra sur les propos du chef de l'État, Emmanuel Macron, à Bruxelles, sa conférence de presse, où il aborde tous les sujets. L'énergie, le gaz, l'inflation, et puis la guerre en Ukraine. On en parlera, on prendra le temps, évidemment, de décrypter cette actualité. Ensuite, on parlera, vous savez, de Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui veut généraliser l'expulsion des familles de délinquants de leur logement social. Ça mérite une clochette. La clochette, où est-elle passée? Bref, monsieur Darmanin, monsieur le ministre de l'Intérieur, eh bien on va essayer de décrypter évidemment ce que vous nous dites. Ensuite, après, autre sujet, le 49-3 qui est dégainé par l'exécutif. Les mentions de censure, ça y est, on va en débattre dès lundi prochain à l'Assemblée nationale. Croyez-moi que ça va être costaud. Trin, trin. Eh oui, ça c'est annoncé. Ensuite, on reviendra sur la guerre en Ukraine, l'Iran et les sanctions de l'Union européenne. Voilà le programme que je vous propose. C'est maintenant, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, qui sort un livre. Donc, bienvenue à vous, monsieur le président. Comment ça va?
Ça va plutôt bien, en tout cas personnellement. Donc, merci surtout de votre invitation à venir échanger avec vous.
On est content de vous accueillir ici. Vous savez que le département du 49-3, c'est notre bassin, hein. Gros bassin de taux d'audience. Je crois qu'il fait partie des meilleures audiences, évidemment, de l'Hexagone. Hexagone. Il me semble que le 9-3,
c'est vous êtes content. Et je suis plutôt fier, ouais, moi, que ce soit notre département qui soit peut-être le numéro 1 de chez vos audiences.
De nos audiences, oui. Bon, en tout cas, il figure pas en tête. Je pense, j'ai un doute, mais bon, si la direction générale nous écoute, mais il me semble de mémoire que c'est le numéro 1. Alors, président, justement, du département, vous publiez un livre, Seine-Saint-Denis, La République au défi, aux éditions Aube. Alors, vous, justement, j'aimerais vous poser une question. Mais avant de plonger dans l'univers de votre ouvrage, une petite question comme ça, quelques sujets d'actualité. D'abord, évidemment, entre l'actualité récente, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a parlé sur qui a fait référence sur le gaz, l'énergie. Il veut une unité commune de l'Union européenne, sauf que l'Allemagne, elle peut pas suivre parce que pour des raisons évidemment, parce qu'elle dépend exclusivement du gaz. La France.
Ouais, ce que je constate, c'est que visiblement, ce traité sur les énergies fossiles qui date, si ma mémoire est bonne, de 94, il était très largement décrié, dénoncé par les associations environnementales parce qu'il faisait une part trop belle justement aux énergies fossiles. Et donc le chef de l'État semble dire que désormais la France va s'en retirer. Ce que je constate, c'est donc qu'il est tout à fait possible pour la France, sans qu'on l'accuse d'être anti-européenne, finalement, de dénoncer des traités européens quand elle juge que son intérêt, les intérêts des politiques publiques, des orientations qu'elle veut donner à notre pays, ne sont pas conformes à ses intérêts. Et donc, on ne peut pas à la fois dire que, justement, il faut sortir des énergies fossiles, il faut aller vers des énergies renouvelables, il faut avoir un nouveau mix énergétique, et puis continuer avec ce traité. Et pourtant, personne ne va accuser le chef de l'État d'être anti-européen. Donc, je voudrais que nos amis...
Pourquoi c'est anti-européen ?
Ben, en tout cas, écoutez ce que disent certains dès qu'on émet la moindre critique vis-à-vis d'un certain nombre de mécanismes européens.
Donc, sauf qu'il se trouve, Monsieur Troussel, Monsieur le Président, qu'il a la pression aussi des lobbies, justement.
Très bien, visiblement, il a entendu. Donc, il est donc possible sur le marché de l'électricité, sur le marché des télécommunications et des transports, finalement, peut-être, de remettre en cause certaines règles, certaines sacro-saintes règles européennes qui nous imposent systématiquement l'ouverture à la concurrence, qui mettent à mal, par exemple, les monopoles des entreprises de transport, avec les monopoles des entreprises qui distribuent l'électricité ou le gaz dans notre pays. Et on s'étonne aujourd'hui de l'envolée des prix, par exemple. Eh bien, je pense que cette décision devrait nous faire réfléchir sur d'autres aspects des politiques européennes.
Justement, l'envolée des prix, pouvoir d'achat, inflation qui ne cesse de monter. Les Français qui galèrent aussi, vous l'a vu avec évidemment la pénurie du carburant. On est à quelques heures des vacances de la Toussaint. Et comment, évidemment, est-ce que vous pensez que l'exécutif, le gouvernement, peut, en dehors des mesures concrètes, combler évidemment ce fossé qui devient compliqué d'ailleurs.
D'abord, ce que je constate surtout, c'est que c'est l'ensemble de ces mouvements, c'est l'expression à la fois de l'angoisse, parfois de la colère d'un certain nombre de nos concitoyens. Quand il y a de telles injustices, de telles inégalités, quand le patron de Total s'augmente sa rémunération de 52% et qu'il refuse de discuter pendant des semaines avec les salariés, avec les organisations syndicales, comment s'étonner ensuite que finalement les salariés soient contraints justement à se mettre en grève. Donc vraiment je pense que le niveau des inégalités aujourd'hui, des injustices, le fait que des salariés, des travailleurs qui travaillent dur et qui ont le sentiment finalement qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, pour qui il y a des angoisses, des inquiétudes face à l'inflation qui arrive, face à cette crise énergétique, qui se demande si cet hiver ils vont devoir choisir.
La population du département 93, comment elle le vit justement?
Bien sûr, avec beaucoup d'inquiétudes.
J'ai cru comprendre avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'ailleurs de... Il n'y a pas de perspective d'avenir.
Des perspectives.
C'est les auditeurs qui... C'est pas moi. C'est ceux, celles qui viennent témoigner sur notre antenne.
On va certainement en parler sur les transformations de la Seine-Saint-Denis qui sont à venir justement. Et c'est une partie aussi de mon engagement de faire en sorte que ces transformations, elles servent les habitants de la Seine-Saint-Denis. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, moi j'attends aussi de ce gouvernement que dans sa relation avec les collectivités locales, par exemple. Nous, on va prendre des décisions là. Moi, j'ai décidé ce matin, par exemple, à l'Assemblée départementale de bloquer les tarifs de la restauration scolaire pour les collégiens de la Seine-Saint-Denis. J'ai décidé,
voilà,
par exemple...
Voilà une nouvelle pour vous, les auditeurs du NAF 3, de bloquer les tarifs.
De ne pas... habituellement, on vote des tarifs qui suivent l'inflation. Mais quand l'inflation, elle est à moins de 1% ou moins de 2%, bon, c'est acceptable. Mais si elle s'envole à 6-7% et que les tarifs devaient suivre ce niveau-là, quand en même temps, il y a des augmentations du gaz et de l'électricité, on a pensé que c'était... pas tenable pour les familles de Seine-Saint-Denis. Pareil.
Vous savez qu'il y a des familles qui se retrouvent en grande difficulté dans le département du NAF 3.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure, justement, s'ils souhaitent vous interpeller au 01 53 48 3000.
Sur les responsabilités qui sont celles du département, moi, je vais tout faire pour protéger les familles de Seine-Saint-Denis. Je donnais cet exemple, par exemple, de la restauration des collégiens. J'ai décidé cette année de verser une nouvelle aide de 100 € pour tous les élèves de 5e. Pour leur permettre de s'inscrire pour faire une activité sportive. Parce qu'on a vu qu'après 2 années de Covid, eh bien, la pratique sportive des jeunes, elle s'était beaucoup réduite. Et dans ce moment difficile de la rentrée scolaire, on a décidé d'aider justement de payer cette licence sportive. On a décidé de reconduire malgré les incertitudes budgétaires, l'aide de 200 euros sans aucune condition de ressources pour tous les élèves qui rentrent en 6e dans un collège, dans un des 130 collèges de, publics de Seine-Saint-Denis. Voilà quelques-unes des mesures que nous allons prendre. Par exemple, on a décidé aussi de ne plus laisser les collèges payer seuls leurs factures de gaz et d'électricité, parce que les collèges se disent, eh bien, vu l'envolée des prix, comment on va faire pour équilibrer notre propre budget ? Est-ce qu'on va pas être obligé de remettre en cause des aides aux familles, des projets pédagogiques et culturels ? Donc je leur ai dit, cette année, c'est le département.
Vous n'avez pas le sentiment, Monsieur le Président, justement, que notre société est en train de se radicaliser dans tous les sens d'ailleurs, hein, de plus en plus ? Violence avec l'affaire Lola, violence avec l'affaire de la jeune femme, donc jeune mère sur la ville de Nantes, violence avec notamment tout ce qu'on vit évidemment dans notre quotidien, violence avec ce que vous venez de décrire, l'inflation, le pouvoir d'achat.
Mais en tout cas, moi je conçois mon rôle, et à la fois tant par le message que je porte, par l'action qui doit être la mienne, aussi pour protéger. Pour protéger les familles, pour protéger les plus vulnérables, pour et justement ne pas exacerber les tensions,
Est-ce qu'on s'oriente vers une société qui se radicalise de plus en plus ?
Bien, en tout cas, je constate qu'il y a des tensions, qu'il y a de la colère, qu'il y a des angoisses, des inquiétudes, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je crois que c'est aussi pour ça que j'écris ce livre. Il faut donner une nouvelle espérance. Il faut notamment la gauche, dont la mission historique c'était de représenter les catégories populaires et la jeunesse. Il faut qu'elle donne une nouvelle espérance justement dans
justement. Votre ouvrage Seine-Saint-Denis, la République au défi, aux éditions L'Aube. Alors justement, j'ai noté plein de passages et j'aimerais évidemment qu'on revienne sur ça. D'abord, qu'est-ce qui a provoqué chez vous l'envie d'écrire cet ouvrage, ce livre, Seine-Saint-Denis? Pourquoi vous vouliez poser votre marque, vous vouliez poser votre mandat?
Oui, tout simplement parce que finalement, la Seine-Saint-Denis, partout en France, les gens ont un avis sur la Seine-Saint-Denis. Souvent des idées reçues, souvent des clichés, souvent des images déformées. Ça pèse d'ailleurs sur les habitants de la Seine-Saint-Denis, parce que cette image négative, stigmatisante qui est véhiculée de partout en France sur la Seine-Saint-Denis, eh bien ça renforce les difficultés des habitants de la Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai voulu finalement dire quelle était la situation de ce territoire et de ses habitants, à un moment où il va beaucoup se transformer, mais où finalement... c'est pas une anomalie, la Seine-Saint-Denis. C'est un condensé des défis de la société française en matière de transition écologique, en matière d'inégalité, en matière de démocratie. Moi, je peux pas me résoudre à ce que les catégories populaires et la jeunesse, elles s'abstiennent ou, dans certains territoires, elles sombrent dans l'extrême droite. C'est un défi. Il y a le défi aussi de notre identité collective. Eh bien, finalement, la Seine-Saint-Denis, c'est pas une anomalie. C'est plutôt un condensé des défis que la société française doit affronter.
Et donc, est-ce que ces défis, c'est aussi l'injustice, c'est les inégalités, c'est tout ça?
Exactement. C'est, moi, je crois que
la Seine-Saint-Denis le vit tous les jours.
Le niveau d'inégalité et d'injustice, il devient insupportable pour un certain nombre de gens. Je vous l'ai dit, les gens qui travaillent dur et qui ont l'impression que la fin du mois, elle commence plus le 30, mais elle commence le 10 ou le 15 de chaque mois. Eh bien, oui, il y en a beaucoup en Seine-Saint-Denis, mais il y en a aussi dans des territoires qu'on dit ruraux ou cette fameuse France périphérique. Et mon rôle, moi qui défends justement une gauche combative qui représente toutes les catégories populaires, eh bien, c'est justement de faire converger et d'unifier ces intérêts de mon point de vue.
Je vais prendre les passages. J'en ai noté plusieurs, justement, durant la lecture de votre livre. Pas mal amené. J'invite vraiment les auditeurs à aller se le procurer, parce que, mine de rien, moi, j'apprends des choses aussi, évidemment, y compris sur ce département. Vous dites, l'avenir était synonyme d'espoir. Pourquoi vous dites était synonyme d'espoir? Ces événements portaient une grande conviction, etc. La politique pourrait changer les choses. C'est vrai que vous dites, il faut dire que le conflit était bien présent et qu'il entretenait le sentiment d'appartenance à une classe sociale et aux catégories populaires. Dans une société traversée par de tels intérêts contradictoires, la gauche avait bien compris qu'elle ne pourrait pas l'emporter et transformer les choses. La gauche, elle est en perte de vitesse quand
oui,
même.
Hein. Vous avez raison.
Vous pensez vraiment, quand vous dites ça, est-ce que c'est quoi? C'est une boutade quand vous dites que l'avenir était synonyme d'espoir?
En tout cas, moi, je suis issu d'un milieu populaire.
Je l'ai vu vous en parler d'ailleurs.
Ma grand-mère.
Communistes.
Plutôt des communistes.
Et vous êtes le seul à être socialiste.
Elle est arrivée de sa Normandie après avoir travaillé dans les champs à l'âge de 10 ans. Mes parents commençaient à la hiérarchie de la fonction publique territoriale. Mon père comme jardinier, ma mère comme animatrice dans des centres de loisirs. Et puis, justement, grâce à cette possibilité de promotion, ils ont réussi à progresser dans cette et à s'émanciper. Et ce que je veux dire par là, quand je dis était, c'est qu'à cette époque-là...
Donc même pour vous, l'ascension sociale fonctionne.
Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Ça a fonctionné à un moment. Ça a fonctionné. Nos parents, mes grands-parents, avaient la conviction, la certitude même, que la situation de leurs enfants, elle serait meilleure que la leur. Et notamment parce qu'il me semble que dans la République, il y avait tout un tas d'outils, de dispositifs. Le logement social, la sécurité sociale.
Mais où est passée la gauche, monsieur le Président ?
Attendez, laissez-moi finir.
Et finalement, beaucoup pensent qu'elle a disparu.
Face à 30 années, 40 années de libéralisme qui... et oui, la gauche, elle a, de mon point de vue, laissé filer un certain nombre de choses.
Et notamment les sujets, les questions d'insécurité et de l'immigration.
Pas seulement
vous avez vu les déclarations de Gérald Darmanin ?
Pas seulement d'insécurité et d'immigration. Quand on laisse affaiblir le logement social, quand on laisse affaiblir la sécurité sociale, quand on laisse affaiblir la retraite, quand on laisse affaiblir les dispositifs de protection des plus faibles, eh bien, justement, on affaiblit cette capacité à donner de l'espoir aux plus modestes, de s'élever, de progresser, de croire à ces valeurs sur les mairies, liberté, égalité, fraternité. L'égalité,
on va en parler.
C'est une passion française. Et quand on...
Ah ben beaucoup n'y croient plus, vous savez ça. Ben je vais peut-être ouvrir l'antenne, 01 53 48 3000. Justement, venez interpeller le président départemental de la Seine-Saint-Denis du 93, monsieur Stéphane Troussel, et le Standard sonne déjà, venez l'interpeller. Vous vous rendez compte, il vient de nous dire ce fameux... Enfin, cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Attention, ça va faire provoquer. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, vous le savez, 18h23, que le temps file, justement, avec Stéphane Troussel, le président du département, donc du 93, avec son ouvrage « Seine-Saint-Denis, la République au défi » aux éditions L'Aube. Monsieur le Président, justement, vous rappeliez, et vous en parlez dans votre ouvrage, dans votre livre, justement, que vous êtes issu d'une famille communiste, vous socialiste, mais comment on devient socialiste quand on est d'une famille où l'ancrage est essentiellement communiste? Et on peut même regretter dans votre livre que vous n'ayez pas pris suffisamment le temps de raconter votre histoire. Parce que là, pour le coup, il y a un espoir.
Oui, en tout cas, moi, je suis un enfant de la Courneuve. Je suis né à Saint-Denis. J'ai toujours vécu. Je vis à la Courneuve aujourd'hui. J'ai grandi dans la cité des 4000. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine, du service public, de l'éducation nationale, de ce qu'on a appelé autrefois le communisme municipal, vous savez, qui organisait presque toute la vie des gens depuis la petite enfance jusqu'au... et moi, je renie rien de cette histoire. Et puis, ben, à un moment...
Alors, la bascule s'est faite comment ? Socialiste.
La bascule, elle s'est faite par mon évolution personnelle, par le fait que je trouvais aussi que, notamment dans les années 90, il me semblait que le Parti communiste ne se mettait plus en situation de représenter toute la société, toute la diversité de la société, tout ce qui émergeait dans la société, cette question démocratique.
Pourquoi vous ne mettez pas en avant dans votre livre tout ça, votre histoire, peut parler à beaucoup, ça peut avoir un écho, une caisse de résonance justement auprès des...
Je parle un peu de mon histoire personnelle, mais j'ai voulu surtout parler de la Seine-Saint-Denis et donc à travers une partie de mon histoire personnelle, je crois que c'est aussi un peu de l'histoire de la Seine-Saint-Denis, mais j'ai voulu surtout développer la situation de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui et deux, trois questions qui me paraissent très importantes pour la Seine-Saint-Denis. Les questions d'identité, les questions d'égalité, les questions de diversité.
Eh ben
moi, je crois par exemple qu'il faut que ce pays, il revendique ce qu'il est, il revendique son identité plurielle. La France avec ses ancêtres gaulois, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais été que ça, la France. Et donc, face à tous les racistes, tous ceux qui ont insulté la Seine-Saint-Denis pendant la campagne présidentielle, par exemple, eh bien, il est temps que la gauche, elle reprenne ce combat de cette identité plurielle.
Vous le dites dans votre livre, la gauche doit être intransigeante justement sur les quelques valeurs. On a le sentiment parfois que la gauche a déserté un peu.
Oui,
justement. Évidemment. On va en parler, monsieur le président. On va en parler. 01 53 48 3000. Venez interpeller le président de la Seine-Saint-Denis du 93, du département, justement, monsieur Stéphane Troussel. Fatima, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir Monsieur Troussel.
Bonsoir.
Soyez une question s'il vous plaît, une question.
Je vois que Monsieur Troussel parle de capitalisme, parle de la droite, de l'extrême droite. Mais moi, à mon avis, la gauche sous Mitterrand a gouverné pendant deux mandats, avec toute la gauche, avec les communistes et tout. Hollande aussi, il a gouverné avec toute la gauche. Et les dernières élections, la gauche, ils font 1% ou je sais pas, 1,4. Donc, si vous faites tout bien, comment ça se fait que les citoyens ne votent pas pour vous? C'est ça, c'est un problème quelque part.
Merci pour votre question, ma chère Fatima.
Voilà, merci,
je vous libère,
merci,
parce qu'effectivement, merci, je ne sais pas si j'aurai tout le temps nécessaire pour prendre les auditeurs, mais bon, promis, vous reviendrez et on ouvrira l'antenne exclusivement que pour vous. 0153 48 3000.
Mais
Monsieur
je
le Président,
quand même,
vous lui répondez.
Ben justement, elle a raison. Et c'est bien pour... Si nous sommes dans la situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes, c'est bien parce qu'on n'a pas tout réussi, loin de là, et que peut-être... Justement, la gauche d'aujourd'hui, la gauche qui s'est présentée éparpillée, divisée à l'élection présidentielle, elle a oublié de porter ce qui a fait notre force. Ce qui a fait notre force, c'est quand on défend les catégories populaires et la jeunesse.
Mais vous le dites, page 20, les échecs nous ont tous marqués, vous en parlez. Mais on a l'impression que les socialistes n'ont pas tiré les leçons du passé.
Regardez ce que je dis dans ce livre, justement.
Je l'ai lu attentivement.
C'est une manière, justement, de tirer les conclusions de ces échecs. Quand la gauche, elle cesse de considérer que sa famille, c'est toute la gauche, elle perd.
Vous en parlez entre vous, l'état-major.
Bien sûr. Quand elle oublie que sa mission historique...
En dehors des luttes.
Bien sûr.
De pouvoir.
Mais oui. La politique, ce n'est pas que les luttes de pouvoir. En ce moment, on va avoir des débats dans les semaines qui viennent. Vous voyez, il va y avoir plein de discussions, de débats entre nous, ouverts sur la société. Mais ce que je veux dire, justement, à travers ce livre, c'est que quand on oublie que notre mission à gauche, c'est d'abord de défendre les intérêts des catégories populaires et de la jeunesse, on perd.
Mais page 32, justement, vous dites défendre toutes les catégories populaires. Certains ont le sentiment d'être en marge de la société. Vous leur répondez quoi?
Je leur dis justement que c'est notre mission. Il faut aller parler à tout le monde dans les catégories populaires. De l'ouvrier qui a perdu son boulot dans la Creuse ou à Romorantin de l'usine Matra, jusqu'aux jeunes de Seine-Saint-Denis qui accumulent les petits boulots précaires et mal payés.
Oui, mais département du 93, c'est un des départements les plus pauvres, voire le plus pauvre. Et monsieur le Président, pardonnez-moi, mais c'est quand même une précarité quand on est habitant du 9-3.
La Seine-Saint-Denis, c'est...
Quand on est du 9-3, c'est aussi beaucoup de difficultés.
C'est beaucoup de difficultés, beaucoup de discrimination. Mais moi, j'ai toujours refusé d'enfermer la Seine-Saint-Denis exclusivement dans cette vision-là et dans ce discours misérabiliste et de victimisation de la Seine-Saint-Denis. Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est des difficultés, c'est du chômage élevé, c'est un nombre d'allocataires de RSA élevé, mais c'est aussi beaucoup de création d'emplois ces 10 dernières années. C'est aussi le fait que nous soyons le 3e département français de France, le 3e département de France a contribué à la TVA au niveau national. C'est un département qui, dans les décennies qui viennent, va connaître les plus grandes transformations. Bien sûr, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, des logements, des équipements publics, des piscines, des passerelles sur l'autoroute et sur la Seine, qui va connaître, avec le métro du Grand Paris Express, 200 km de métro.
Comment se préparent les JO, justement ?
Eh bien, ils se préparent plutôt bien. En tout cas, les chantiers sont lancés, les délais seront tenus. Vendredi, quand je serai de retour d'Algérie, j'irai poser une nouvelle passerelle piétonne entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis pour relier pendant les Jeux, les deux rives du village des athlètes, mais qui, au lendemain des Jeux, sera justement une passerelle pour les habitants, pour leur permettre de circuler à pied, à vélo, en bus, sur une nouvelle passerelle qui va relier ces deux villes de l'île Saint-Denis et Saint-Denis. Donc,
on parle de plus en plus.
Il va y avoir beaucoup de transformations.
On a parlé d'immigration, on a parlé d'insécurité. On parle beaucoup, évidemment, du retour de la caméra de surveillance. Vous êtes favorable, vous êtes pour, vous êtes contre. Comment vous positionnez-vous, président du département?
Moi, je l'écris, y compris dans son livre. J'ai pas de tabou sur ces questions de caméra de vidéosurveillance. Parce que, là encore, je sais, moi qui suis un enfant de la Courneuve, qui ai grandi et qui vit aujourd'hui encore en Seine-Saint-Denis, que c'est toujours les plus fragiles, les plus vulnérables, les femmes seules, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, qui sont les premières victimes de l'insécurité. Mmh. Et donc, il faut de la présence humaine, des policiers sur le terrain, mais les caméras de vidéosurveillance, c'est un outil supplémentaire, justement pour contribuer aussi à la sécurité. C'est pas la recette miracle, mais il faut l'utiliser.
Restez avec moi, il est 18h31, avec une minute de retard, justement, le Quad 9, c'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, vous le savez, c'est comme chaque vendredi, justement, avec Michel Taube. Michel Taube qui est, il vient nous livrer son édito, son billet d'humeur. C'est le patron d'Opinion Internationale. Mon cher Michel, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour à tous les éditeurs de Beurre FM et si vous me le permettez, au président du département de la Seine-Saint-Denis. C'est avec vous, je crois.
Eh bien, il vous salue, notre éditorialiste, Michel Taube. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, justement, alors qu'on a une alerte qui vient de tomber. La justice belge refuse de remettre l'imam Ikoussen à la France. Eh bien, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur sur cet imam, justement. On vous écoute.
Alors,
vous,
oui, alors j'étais partagé entre plusieurs sujets. J'aurais pu vous parler de la nomination, parce que l'information vient également de tomber, de la nouvelle première ministre italienne, Madame Meloni, qui va donc d'être nommée. Oui. Et il se trouve que Emmanuel Macron se rend en Italie ce week-end pour rencontrer le pape. Il va être reçu en audience privée par le pape. Et donc, il aura l'occasion, là, très certainement, de rencontrer Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre. Vous savez, Meloni, c'est cette femme qui a en partie hérité du parti néo-fasciste et avec elle, c'est une Italie à la fois pro-européenne, mais sur les questions de sécurité extrêmement dures, qui arrive à la tête de la République italienne. J'aurais bien voulu vous parler aussi de l'Iran, parce que je trouve extraordinaire ce qui se passe en ce moment en Iran, et je suis très très déçu que l'Union européenne, qui s'est réunie pendant 2 jours à Bruxelles, oui, oui, n'a pris aucune mesure.
Alors, sur l'imam Ikoussen.
Alors, l'imam Ikoussen, en 2 mots, l'information est tombée là il y a quelques minutes. En première instance, la justice belge a refusé d'expulser l'imam Ikoussen au motif qu'il risquerait de ne pas bénéficier d'un procès équitable lorsqu'il sera expulsé vers la France. Alors, le parquet va certainement faire appel et je pense qu'en appel, son expulsion risque d'être acquise. Mais moi, je voudrais redire, comme je l'ai déjà souvent écrit, j'ai notamment lancé dimanche dernier dans le JDD un appel avec Frédéric Thirier, l'ancien patron de la Ligue de football professionnel, pour une révision de la Constitution pour mettre la laïcité plus précisément dans la Constitution. Mais je trouve quand même fort de café que cet homme qui a pendant des années, et je sais que c'est un sujet sensible, mais diffusé des prêches homophobes, sexistes, vraiment extrêmement choquants à bien des égards, soit libre et que ses prêches sur YouTube soient toujours en libre service, alors que par ailleurs on veut l'expulser. Il y a une anomalie dans le droit français qui fait que personne n'est satisfait, à la fois ceux qui défendent la liberté d'expression et ceux qui le défendent plus particulièrement, et ceux qui en même temps, et j'en fais partie, veulent son expulsion au nom des valeurs de la République, et notamment, encore une fois, le respect des femmes, la lutte contre l'homophobie, oui, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une impasse, et que pour sortir de cette impasse, il faut changer le droit, il faut le renforcer, et c'est pour ça que je prône la création d'un sucre dans la Constitution de la laïcité. Voilà ce que je voulais dire en 2 minutes, les 2 courtes minutes qui me sont imparties.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur. Et vous le savez, à chaque édito que vous faites, ça fait réagir nos auditeurs. Et tant mieux, c'est évidemment le lieu, les informer. C'est ici que ça se passe. Mon cher Michel Taube, vous
merci
partez, vous prenez quelques jours.
Alors non, mais ma fille est en vacances et je peux vous dire que c'est la fête à la maison.
C'est la fête à la maison. Allez, bonne fête à la maison.
Merci.
Merci Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale. Avant de retrouver nos débatteurs, je voudrais juste qu'on finisse avec notre invité, Monsieur Stéphane Troussel, le président du conseil départemental du 9-3. Monsieur le président, justement, continuez de parler de votre livre. Un énorme passage concernant... Je vois que vous connaissez du monde là, non? Et les débatteurs, ils sont rentrés dans le plateau là.
Un petit peu.
La crise sanitaire. Oui. J'ai pas besoin de le rappeler, vous en parlez, elle a créé plus que des inégalités, un fossé énorme. D'ailleurs, ça a été pointé du doigt. Est-ce que ça a été réglé, est-ce qu'on a pu combler ce fossé, justement, contre les inégalités?
Cette crise sanitaire, elle a montré, une fois encore, que les inégalités, elles tuent. Et que, contrairement à ce que certains avaient essayé de nous dire, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique où certains expliquaient que finalement, si la Seine-Saint-Denis connaissait une surmortalité, 130% entre le mois de mars et le mois de juin, eh bien certains nous ont expliqué finalement que, vous savez, c'est parce que les pauvres ne se confinaient pas. Non, c'est pas ça la réalité. C'est parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis, pour beaucoup, ce sont les travailleurs essentiels. C'est ceux qui faisaient tourner le pays et qui n'étaient pas confinés, justement. Ou n'avaient pas la possibilité de partir dans leur résidence secondaire à 200 km de Paris. Ou bien, ils devaient continuer de travailler, ils devaient prendre les transports. Et par ailleurs, ils étaient souvent logés dans des plus petits logements que les autres. Et voilà ce qui explique. C'est les inégalités sociales qui ont expliqué cette
situation. On arrive au terme de cette interview. Avant de retrouver les débatteurs qui vont confronter leur point de vue sur les idées, sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. En Seine-Saint-Denis, vous le dites à tout fin chapitre, en toute fin de votre ouvrage, vous dites « La République au défi de son avenir ». L'avenir, c'est quoi l'avenir ? L'espoir. Vous avez parlé d'espoir tout à l'heure, vous avez parlé évidemment, il y a plein de choses qui ont retenu mon oreille. Mais la Seine-Saint-Denis, quels sont les défis qui l'attendent, ben justement, qui sont attendus ?
On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure.
Rapidement.
Je considère qu'il n'y a pas d'autres territoires qui concentrent dans les 10 années qui viennent autant de projets. La Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, 200 km de métro autour de Paris, il y en a un tiers en Seine-Saint-Denis, un tiers des gares de ce futur métro sont en Seine-Saint-Denis. Des installations de grandes entreprises, le grand hôpital à Saint-Ouen, le campus Condorcet-Aubervilliers. Il n'y a pas d'autre territoire qui va concentrer autant de défis. Donc si on ne réussit pas en Seine-Saint-Denis avec l'ensemble de ces projets, c'est à désespérer de la République. Et donc je crois que notre objectif, enfin c'est le mien, c'est que notamment grâce à l'action publique, grâce aux services publics, grâce aux politiques publiques, il faut tenir les deux bouts. La Seine-Saint-Denis qui va bien et celle qui est encore
Monsieur le
en
Président,
grande fragilité.
Vous allez vous rendre en Algérie ?
Oui, je pars lundi après-midi.
Semaine prochaine ?
Oui.
Pour des enjeux mémoriels, c'est-à-dire d'une phrase, d'un mot ?
Tout simplement, je pense que les difficultés que peut rencontrer aujourd'hui la France en matière d'identité, c'est parce qu'il y a certaines pages de notre histoire.
Vous allez rencontrer qui là-bas ?
Je vais aller à la fois rencontrer l'ambassadeur, les autorités algériennes, je vais aussi aller à Tizi et à Béjaïa pour notamment prendre connaissance et développer les projets de coopération décentralisée.
Et vous viendrez nous dire comment ça s'est passé.
Aucun problème, je serai de retour et je viendrai vous raconter.
Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis du départemental, le président du conseil départemental du 9-3. Seine-Saint-Denis, la République au défi. Allez vous procurer son livre. C'est pas mal, franchement. Moi perso, évidemment, j'ai découvert certaines facettes de ce département, de ce beau département, aux éditions L'Aube. Tout de suite, je salue nos débatteurs. Bonjour maître David Libeskind.
Bonjour.
Bonjour à notre élu. Oui, ma maison. Rafik Temgari.
Bonsoir, Adil.
Celle qui incarne Renaissance, Laure Arinel. Bonjour.
Bonjour.
À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous pour commenter les sujets qui ont retenu notre attention.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
C'est parti, chers amis, 18h44 précisément, le face-à-face jingle.
Les informés, le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec maître David Libeskind. Bonjour maître.
Bonsoir Adil.
Comment ça va bien ?
Ça va. Le vendredi, ça va toujours bien.
Vous avez rajeuni là, j'ai l'impression que c'est passé.
Il a fait la coupette,
la petite barbe, la petite coupe de cheveux. Le mec s'est fait beau gosse, je sais pas ce qui se passe là, il y a une sortie ce soir ou quoi ?
Je savais que je rencontrais Lova.
Lova Rinel.
Du coup, moi aussi, je rasais
Lova qu'on voit. Lova d'ailleurs, là, attendez. Lova, on la voit partout. Ouais. Elle est sur LCI, sur France Info, sur CNews, sur BFM.
Non, pas sur CNews.
Pas sur CNews. Ah, c'est vrai, d'accord, ok. Votre micro, il est allumé ? Je sais pas s'il est allumé, son micro. Oui.
Ouais.
Ouais. Si, c'est allumé.
Une vraie influenceuse, Lova.
Non.
Ah, là, il est allumé, là, oui.
Ça y est, non, donc je ne suis pas sur chaîne.
Bah, bon. Pas le sujet si.
Comment ça va, Lova Rinel ?
Ben, ça va. Aussi, on va dire, sollicité que l'actualité nous pousse à être sur les plateaux et expliquer ce qui se passe. Voilà.
Le collectif pluriel.
Oui, collectif pluriel.
Un élu de Rueil-Mémaison, Rafik Temgari, comment ça va ?
Superbe, très content depuis 2 jours qu'on s'était vu, je pense.
Ouais, c'est ça.
C'est très très bien. Exactement.
Oui, alors parlez-nous un petit mot sur le centenaire, la grande mosquée de Paris, effectivement. Alors le président de la République s'est déplacé.
Je trouve que c'était un événement vraiment
Nicolas
extraordinaire.
Sarkozy était présent.
Il y avait
et c'était les 100 ans de la grande mosquée.
Tout à fait.
Ça nous a permis de connaître l'histoire, une replongée dans l'histoire. Dites-nous un petit peu votre.
Alors moi j'étais invité par le recteur de la mosquée, la grande mosquée de Paris, Hafiz Shemseddine, que je salue et que je trouve qu'il a fait vraiment un travail titanesque parce que aujourd'hui on a une histoire. Les musulmans de France ont toujours eu une histoire et là c'était le 100e anniversaire de la pose de la première Pierre de la mosquée de Paris. Et par la même occasion, je le félicite parce qu'il a eu, il a été décoré officier de la Légion d'honneur. Donc ça, c'était très bien.
Ouais, wow. Très émouvant.
Ouais, très très sympathique et franchement,
ça a duré,
un moment
très... C'était très tard
d'un pas
ensuite.
Si. Il y a eu quand même une exposition. Il y a
ça
a
fini tard cette histoire, il me semble.
Tout à fait. Ouais.
20h30. Hein.
Donc c'était très bien. C'était et je conseille les auditeurs qui sont en région parisienne et qui sont en vacances d'aller visiter la mosquée de Paris, qui est un endroit vraiment un havre de paix.
Notamment.
Tout à fait.
Avec cette nouvelle expo des 100 ans. Les 100 ans, vous rendez compte? Les 100 ans. D'ailleurs, le chef de l'État Emmanuel Macron a rappelé l'histoire, évidemment, que le rôle des franco-musulmans à l'époque. Ou des musulmans tout court.
Je ne vais pas refaire un cours d'histoire, mais sincèrement, il faut connaître l'histoire des musulmans en France. Aujourd'hui, ils ont participé à la libération. Ils ont beaucoup donné un prix lors de la Première Guerre mondiale et la Seconde, tout à fait, et qui venaient un petit peu de partout. Donc, c'était l'histoire des colonies, etc. Mais aujourd'hui, chapeau bas pour tous ceux qui ont participé à la construction de ce pays.
Bien sûr.
Allez, premier sujet, messieurs, madame, qui a retenu notre attention, le sommet de Bruxelles. Vous savez, il y a des tensions, il y a des scissions. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. L'Allemagne n'est pas d'accord avec la France, notamment. Bref, tout à l'heure, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a eu l'occasion de s'exprimer longuement, d'ailleurs, et de revenir sur des sujets, notamment la crise de l'énergie, notamment la guerre en Ukraine et le gaz. Alors, vous savez ce qu'il y a? D'abord, on va parler de cette relation entre la France et l'Allemagne. Pourquoi, évidemment, en ce moment même, on parle de ce fameux gaz? Parce qu'il y a un blocage, hein, Lovarinel. Qu'est-ce qui bloque? Et l'Allemagne en ce moment et la France, ils sont pas d'accord sur ce sujet. Hein. Alors qu'on parle d'une unité européenne pour fixer un plafond.
Tout bloque parce que la question du gaz, mais d'énergie également, en fait, répond à deux volets. La question des infrastructures et de leur acheminement. En France, il faut savoir ce qu'on appelle la RTE, donc c'est le réseau de transport d'électricité, qui s'inscrit dans un gros réseau européen. Et donc, chaque pays, souverainement, achemine. Nous, je vous dis, si on a de la lumière, c'est grâce à ce réseau. En Allemagne, c'est pareil. Et la question, c'est les réseaux de transport, hein, leur gestion. Et ensuite, vous avez l'alimentation. Donc, le gaz, les sources. Gazprom, la fameuse question dans le cadre de l'Ukraine, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est en fait la fin de ce partenariat russo-européen. Et ça demande à la France, et à la France pour nous, parce qu'on est français, mais en fait aux différents membres de la communauté européenne de...
Il y a l'Arsène, quelque part, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon.
D'essayer de trouver des solutions pour contourner effectivement ces problèmes d'approvisionnement. Et donc, de lutter contre cette hausse des prix, puisque ça nous coûte très cher.
A aussi le gaz. Mais pourquoi l'Allemagne il y a ce bras de fer entre la France et l'Allemagne.
C'est une vieille histoire.
Pourquoi elle dépend exclusivement du gaz et qu'elle ne peut pas...
Pas que, mais énormément. Mais c'est surtout que ce sont des industries. Et c'est une filière allemande. La France, elle a un parc, comme on sait, on va dire, beaucoup plus varié en termes de ressources. Mmh. Il faut savoir que l'Allemagne, au-delà en fait des filières, il y a aussi... une vraie histoire écologique très réticente envers notre nucléaire.
Ils pèsent là-bas, les écolos.
Ils auraient ouvert les centrales à charbon, les Allemands, pourtant.
Mais ils sont contre le nucléaire. C'est un principe presque fondamental dans leur réflexion écologique.
Mais c'est moins polluant que le charbon, quand même.
Il a fallu attendre le Covid, en fait, pour qu'il y ait enfin les Allemands qui disent non, mais en fait, le tabou du nucléaire, on s'est trompé. Les écologistes allemands disent on s'est trompé, ce qui a énervé d'ailleurs nos écologistes allemands. Ils disent non, c'est pas vraiment trompé, c'est pas vrai. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la filière nucléaire, c'est qui la maîtrise en Europe, c'est la France. Mmh. Donc, ça redemanderait à l'Europe d'être dépendante de la France, à l'Allemagne d'être dépendante de la France. Et ça, l'Allemagne, fondamentalement, ne le veut pas, ne le souhaite pas. On voit sur les accords de sécurité, notamment de défense, l'Allemagne, malgré des tentatives, n'a jamais. Voulu ce partenariat stratégique. Pour revenir un peu sur mes sujets de dissuasion, parce qu'il y a le nucléaire civil, mais le nucléaire militaire, il faut savoir que la France a déjà demandé à l'Allemagne, de dire, écoutez, nous avons l'avant, général de Gaulle, nous vous proposons d'être sous notre parapluie. L'Allemagne a refusé. Donc, il y a des questions historiques très, très profondes, des réalités infrastructurelles. Il faut savoir que Gazprom, pendant très longtemps, c'était Gerhard Schröder qui était le patron de Gazprom. Et ça pose de vrais problèmes en politique allemande, puisqu'il y a des demandes de l'opposition d'ailleurs allemande de tenir un procès contre Gerhard Schröder, parce qu'il aurait un peu vendu l'Allemagne. Toutes ces questions-là demandent à l'Allemagne le sentiment que j'ai avec ça. C'est pas une question juste de gaz. Il y a une vraie question de politique intérieure, d'industrie, d'acheminement, de gros sous. et de questions stratégiques, oui ou non, les Allemands, sur ces questions fondamentales, ont envie d'être du côté des Français. Et c'est ça le problème. Et ça ne peut pas se régler juste...
Donc il y a un bras de fer qui risque de s'annoncer alors la semaine prochaine.
Je crois que à Bruxelles, c'est salutaire, parce qu'en fait, il faut qu'on règle ce problème. On ne peut pas être...
Mais alors il va y avoir un sommet extraordinaire.
Il a annoncé le président.
Ah, il l'a annoncé, d'accord,
il
je ne sais pas
annoncé, il a dit qu'il faut attendre la fin octobre, début novembre, pour qu'on puisse trouver et annoncer des dates, parce que... Parce qu'en fait, je crois qu'il faut, le dire à nos auditeurs. Cette question-là, on ne pouvait pas la régler autour d'une table là, à cause d'une guerre. C'est beaucoup plus profond que ça.
Et la France qui se retire justement du traité de, sur la charte de l'énergie,
Bah, c'est la suite.
C'est bizarre, non?
Non, moi, je crois que c'est... dit comme ça, c'est bizarre. Mais la réalité, c'est quand vous avez des partenaires de l'Union européenne qui ne sont pas d'accord et votre partenaire principal n'est pas d'accord sur tout le reste, ben, la charte de l'énergie, elle n'a plus de sens. Donc, encore une fois... On est dans une logique de refonte de notre réflexion énergétique. Je pense au changement climatique parce qu'elle
est commune, européenne.
Il faut comprendre que c'est normal que tous les pays veulent essayer de tirer aussi des couvertures de gros sous. Encore une fois, on est sur des sortes d'argent, d'industrie, d'installation. Ça va être des milliards en jeu. Et il faut rappeler que, par exemple, l'accord de gaz qui avait été fait il y a plus de 10 ans, qui nous liait à l'Espagne, au Portugal et à l'Algérie, est ressorti l'été dernier, les Allemands n'étaient pas d'accord, ils ont tapé du poing. Et aujourd'hui, la France remet cette question en disant « Ok, MIT4, on repart dessus ». Donc ça veut bien dire que, en gros, on dit...
La France a abandonné le MIT4 pour un
Mais là,
donc juste pour rappeler aux éditeurs...
Allez, tiens, Rafik Tamgaré, faisons un tour de table.
Alors, moi, je pense que... On va essayer d'analyser ça assez simplicitement. La France et l'Allemagne, c'est deux concurrents. C'est les deux puissances européennes. Oui, chacun souhaiterait prendre le lead.
Je l'ai dit ici il y a quelques jours.
Et cette concurrence-là entre ces deux pays, ça s'est passé avec d'autres pays, comme l'Italie par exemple, qui a essayé de partir négocier avec l'Algérie directement. Donc chacun essaye, comme elle a dit Lovat, très correctement tirer la couverture vers soi. Alors maintenant concrètement sur
Sauf
terrain,
que l'Allemagne se porte très très bien.
Alors actuellement
contrairement à la France,
parce que elle a pas, je dirais même pas, si diplomatiquement l'Allemagne elle est en train de d'essayer de avoir des rapports avec la Russie un petit peu courtois, contrairement à la France qui a déclaré frontalement son rejet à la guerre avec l'Ukraine. Donc moi je pense que aujourd'hui le président Macron, il est parti où il a fait un petit tour avec ses homologues espagnols et portugais pour créer cette interconnexion comme ils appellent un corridor énergétique, donc pour créer quelque chose de similaire par exemple entre Barcelone et Marseille et faire en sorte de penser aux énergies renouvelables, d'autres ressources, alors que l'Allemagne reste plutôt dans l'industrie. Donc on sait très bien que l'Allemagne c'est un pays très industriel et elle a besoin d'électricité, elle a besoin de gaz, donc elle est prête, je pense que l'Allemagne est prête d'acheter du gaz de la Turquie qui va être du gaz russe, et pour elle ne voit pas du tout de soucis parce que c'est pour l'intérêt personnel, alors que la France elle est plutôt dans comment on va construire ensemble avec les autres pays européens pour pouvoir faire face aux défis futurs. Donc ça moi je pense qu'il y a une certaine
donc fracture, là il y a friction
exactement, fracture entre l'Allemagne et la France, et on va voir comment ça va se passer. Est-ce que
l'Allemagne n'est pas en train de s'isoler?
Alors c'est possible, mais aujourd'hui, ce qui se passe en Angleterre, on voit avec la première ministre anglaise qui vient d'être
qui a démissionné.
Je pense que l'Allemagne, pour sauver un petit peu l'Europe, parce que s'il y aura fracture en Europe, bah l'Europe c'est parti. Hein. Donc je pense que la France et l'Europe et l'Allemagne doivent trouver une solution pour sauver l'Europe. Donc ça c'est assez important.
Maître David Lemesquide.
Alors quelques mots. Enfin, pour moi, l'Allemagne et la France ne sont pas concurrents. Je veux dire, l'Allemagne est très très loin de la France.
Très loin.
Certains domaines.
En termes économie, dans beaucoup de domaines. La France, dans certains domaines comme le luxe, est devant. Depuis des décennies, et tout le monde le sait, l'Allemagne a toujours été le moteur de l'Union européenne.
Pour les voitures,
c'est elle qui a institué la politique du Francfort à l'époque. On suivait le Deutsche Mark. Donc après, il y a toujours un partenariat entre la France et l'Allemagne, parce que la France est un grand pays, mais en termes économiques, je veux dire, l'Allemagne a besoin de la France, parce que nous, on est plutôt du côté des pays du Sud maintenant. Donc forcément, elle est obligée en fait d'avoir un dialogue constructive avec la France. Mais il faut un petit peu parler de l'origine du problème. C'était quoi l'origine du problème? C'était le prix du gaz. C'était le prix du gaz. Vous aviez les, parce qu'elle est minoritaire l'Allemagne. Vous aviez les pays du Sud plus la France, qui souhaitaient maîtriser le prix du gaz en le plafonnant. Hein, c'était l'objectif.
C'était l'objet.
Voilà, c'était l'objet. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne, en tout cas sur cette question, est isolée. Vous avez plus de 15 États membres de l'Union européenne qui sont partisans du plafonnement du prix du gaz. On a le sentiment, d'après ce que dit Emmanuel Macron, d'après les retours qu'on a, que l'Allemagne aurait un petit peu cédé sur cette question, évidemment, parce qu'elle est, elle est minoritaire. Mais en tout cas, la feuille de route, parce qu'il y avait une feuille de route, ça a vraiment servi à rien. Ils ont passé, je crois que c'est dans la nuit du jeudi ou vendredi, toute la nuit. Essayer de négocier. Résultat, c'est quoi? C'est une feuille de route et on renvoie la Commission européenne pour qu'elle fasse de manière urgente des propositions. Donc en fait, ils n'ont pas
la version finale et ils ont délégué ça au ministre des Énergies pour trouver une version finale.
Oui, à la Commission européenne.
Exactement. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur les négociations.
Non, parce que l'Allemagne, je pense sur la question du prix du gaz, elle s'est plus ou moins ralliée. Et puis bon, elle est isolée. L'Allemagne n'est pas tout seule dans l'Europe. Elle peut pas décider toute seule. Après, effectivement, la crise en Ukraine a montré qu'on avait le sentiment que l'Allemagne prenait une forme d'autonomie par rapport à l'Union européenne concernant sa remilitarisation et puis du fait de sa dépendance au gaz russe parce que l'Allemagne
après, savoir quand même pour nos auditeurs que la remilitarisation allemande est cadrée dans les accords post Seconde Guerre mondiale. Elle peut pas faire ce qu'elle veut non plus.
Oui, mais bon.
Mais bon, l'Allemagne, c'est pas la Russie qui se permet d'enfreindre des accords internationaux. Elle ne l'a jamais.
Enfin, elle a fait.
Elle a fait des milliards d'investissements dans des achats pour certains qui sont américains. Enfin, il faut remettre et qui sont dans le cadre d'accords internationaux, notamment de l'OTAN ou autres. Mais l'Allemagne ne remilitarise pas tout seul de manière je fais ce que je veux.
Elle n'a pas le droit.
C'est absolument faux.
Elle n'a pas le droit.
Il faut
surtout
le remettre dans un contexte juridique. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a été la nation perdante de la
tout
Seconde Guerre mondiale.
Oui,
et que ça a structuré sa réalité militaire.
Ça, je suis d'accord.
C'est important de le
préciser. Quels
sont les enjeux qui sont attendus justement dans ce sommet? Et puis l'Allemagne, la France, est-ce qu'il peut y avoir un accord? C'est quoi les enjeux attendus dans les prochains jours?
Je crois que les enjeux, si je peux me permettre, Adil, c'est que l'erreur serait de croire que ce serait que sur les questions de l'énergie. Je crois qu'on est face, peut-être, et c'est cette guerre qui nous a permis de faire ça, on l'a vu pour l'OTAN, on l'a vu pour l'ONU, on le voit pour l'Europe, c'est la fin des hypocrisies et des non-dits. On a parlé de mort cérébrale de l'OTAN, la guerre en Russie, ça a permis de refaire vivre cérébralement l'OTAN. Ça agace d'ailleurs Vladimir Poutine. De l'autre côté, on parlait d'une Union européenne, dans le sens Union, c'est la cacophonie européenne.
Ah non, je crois pas là. Non, t'exagères.
Non, sur les questions, non, je parle pas sur le plan diplomatique par rapport à la guerre.
Oui, voilà.
Je parle sur, une fois que la guerre est faite et qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'on soutient l'Ukraine, sur les mises en œuvre énergétiques, stratégiques, politiques étrangères, ça va pas. Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ça reste. Il y a une concurrence, alors qu'elle soit égale ou inégale, moi je ne suis pas là pour juger du niveau économique. Ce que je veux dire par là, c'est que les intérêts allemands, ils ont leurs propres intérêts. Les Italiens ont leurs propres intérêts.
Oui.
Les Français ont leurs propres intérêts. Les Espagnols,
portugais, les Allemands ont toujours défendu.
Et vous l'avez. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir que nos chefs d'État et nos gouvernants se mettent d'accord sur des accords. Ça n'a jamais été fait parce qu'on était
après,
là sur.
Mais est-ce que la France va se mettre d'accord avec l'Allemagne?
Moi je pense que les tractations vont aboutir. Peut-être un peu lentement, parce que vaut mieux tard que jamais, mais quand même,
Ils peuvent plus faire ça.
Si, moi je pense que. Non, pas d'accord, mais des tractations.
Si, on trouve un accord FAD qui satisfait toutes les parties.
Le plus important, c'est que l'Europe réagit. Aujourd'hui, il faudrait avoir une réaction.
Et il me semble-t-il qu'elle s'est ralliée un petit peu à cette idée. Elle n'a pas le choix. Elle a plus de 15 pays de l'Union européenne qui sont d'accord avec ce plafonnement. Et puis l'expérience espagnole et également l'expérience portugaise a montré que bon, c'était quelque chose d'efficace. Donc l'Allemagne est un pays un peu comme les Américains, ils sont très pragmatiques. Donc ils vont choisir la solution qui marche. Alors effectivement, les autres pays vont céder sur d'autres aspects, puisque comme tu dis, et là je pense que tu as raison, Même si c'est une négociation aussi un petit peu globale.
David est d'accord avec moi.
Non, mais c'est une négociation globale. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, dans l'Union européenne, a toujours défendu ses propres intérêts et toujours ses propres intérêts ont prévalu. En termes de politique monétaire.
La France fait la même chose, pour info.
Non, mais en termes de politique économique, non, mais la politique de la rigueur, c'est l'Allemagne qui l'a instituée il y a très très longtemps, depuis la politique du Deutschmark.
Mais actuellement, je parle d'aujourd'hui.
Elle a imposé sa politique économique, elle s'est enrichie, elle a appauvri, entre autres, la France. Faut dire ce qu'il y a, hein. C'est l'Allemagne qui est sortie gagnante, de l'Union européenne. Donc évidemment, l'Allemagne défend ses intérêts, la France défend ses intérêts. Sauf que là, la donne, elle a changé, parce que si la France arrive en fait à se faire allier avec, à avoir des alliés comme l'Espagne, comme l'Italie.
Bah actuellement, la France, c'est ce qu'elle est en train de faire.
Au niveau de l'Union européenne, je pense qu'elle pourra faire, valoir ses points de vue. Mais il y aura quand même des concessions.
Excuse-moi, mais
je pense
France,
qu'on va arriver à trouver un accord FAD qui satisfasse toutes les parties.
Mais quand même, cet accord, juste pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, ça nous rappelle les années Sarkozy, vous savez, de cette fameuse accord. Méditerranée.
Je pense
qui a saboté ça? Les Allemands.
Ben oui
c'est
parce qu'ils sont pas du tout méditerranéens, contrairement à nous, les Français.
C'est que l'application sur la question énergétique de ce que voulait Nicolas Sarkozy.
Mais je pense sincèrement, je pense que Emmanuel Macron, il repart sur cette même version là. C'est que il s'est entretenu.
Je crains que l'Allemagne.
Alors
on n'a plus Angela Merkel et il faut dire qu'Olaf Scholz, ça fait beaucoup d'accords qu'Angela Merkel aurait refusé. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des industries avec des intérêts industriels et que le vrai sujet, c'est de trouver comment la France
alors,
et les Européens...
Vous savez ce que disent alors vous l'avez tous dit, il y a l'Allemagne d'un côté qui campe sur ses positions, il y a aussi les discussions qui ont été ouvertes et vous l'avez rappelé, Rafik Tamgari, c'est vrai, il y a des tractations qui se jouent en ce moment même avec les différents commissaires et l'Allemagne ayant maintenu son refus de plafonner justement, c'est pour ça que je suis pas sur les prix du gaz, les 27 sont restés sur leur désaccord déclarant vouloir poursuivre l'examen des options qui permettraient de limiter les prix de l'énergie. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va éviter cette envolée spéculative ou pas du tout, justement du prix du gaz? Parce que c'est la réunion du sommet extraordinaire, c'est aussi ça, l'Ovarinel.
Moi, je crois que le sentiment que j'ai, c'est que, en tout cas, le gouvernement français fera tout pour qu'en France, on limite la casse. Et c'est la raison pour laquelle ils se réunissent. Et que tous les gouvernements veulent limiter la casse. Donc, je crois que on peut tous se mettre, en tout cas, d'accord autour de certains pour dire qu'ils vont tout faire. Combien ça va coûter en termes de négociations, je ne sais pas. Mais je crois que pour parler de la France, ils vont limiter un maximum pour que nous, Français, on n'ait pas une facture qui ressemble à un prêt immobilier, quoi. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais c'est un peu... on a l'impression qu'on fait un apport pour pouvoir acheter un appartement.
Farid Temgari.
Rafik, oui, je suis tout à fait d'accord.
J'ai dit quoi mais...
Farid.
Excusez-moi, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc, je sais pas. Bon, bah, je suis désolé.
Il n'y a aucun souci, mais je suis tout à fait d'accord avec Lova dans le sens où on fera tout pour que le simple citoyen ne puisse pas. Aujourd'hui, je paye 100 euros d'électricité, je ne vais pas passer à 1000 euros si c'est. Je vais suivre le prix du marché. Donc, sinon, n'importe quelle personne risque de se révolter et sortir dans la rue. Donc, les gouverneurs ont vraiment peur de la réaction des citoyens. Donc ils feront tout pour qu'ils trouvent des solutions pour que le citoyen ne puisse pas subir cette augmentation faramineuse. Et je pense que l'Allemagne, c'est ce qu'il est en train de faire, un petit peu son veto pour limiter la casse.
Donc bataille qui s'installe entre l'Allemagne et la France.
Tout à fait.
Ça c'est étonnant parce que justement l'argument de l'Allemagne de dire qui ne peut pas plafonner le prix du gaz, c'est qu'elle a peur justement que ça augmente la demande.
Oui, c'est ça.
Et que ensuite ça augmente les prix du gaz.
Voilà, mais tout dépend d'ailleurs de la Norvège.
Alors qu'en fin de compte, si
la Norvège, elle livre l'Union européenne.
Oui, tout à fait.
La Norvège qui est un ami, qui est pays ami d'ailleurs, rappelons-le quand même, non ?
Qui est pays européen.
Alors qu'en fin de compte, si on plafonne.
Moi je crois, et vous l'avez pas lâché. Me semble-t-il, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je crois, ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, c'est que la Norvège et surtout les États-Unis, ils se gavent. Ils profitent de cette guerre pour se gaver.
C'est pas faux. Moi, je pense que le gagnant dans l'histoire, c'est les Américains.
Parce qu'il est en train de dire, il le dit pas, Emmanuel Macron, mais il est en train de dire, les perdants, c'est nous, les Européens.
Je suis tout à fait d'accord parce que très souvent c'est les États-Unis qui gagnent et je pense que
il a un peu taclé les États-Unis. Bah,
actuellement pour la guerre, les Américains ils ont dit au départ partez, on va venir les Ukrainiens, on va vous aider.
C'est ce qu'ils disent. Emmanuel Macron,
ils ont laissé
lâche pas
un
comme
petit
ça.
Peu les Européens seuls. Ouais, ils ont fait la même chose.
Ils ont débloqué pas mal de milliards quand même. Oui pour
c'est
les ça. Ukrainiens,
oui mais
pas,
les Américains aimeraient bien vendre leur gaz de schiste.
Oui.
Voilà, aimerait bien que l'Europe, en fait, s'alimente à gaz de schiste. Donc, elle a un intérêt économique.
Alors,
bien sûr
plus,
qu'elle a versé des milliards.
Dans le fond, c'est, elle aimerait bien qu'on s'alimente en gaz de schiste maintenant, hier, aujourd'hui, demain. Hmm. Notre nucléaire français, ça les agace.
Ah oui, ça c'est clair. Ouais.
Ça les agace. Hmm. C'est pour ça que le charbon allemand, ils étaient bien contents parce que derrière, c'était gaz de schiste. Midcat, c'est du gaz algérien, il faut le
tout
dire.
Tout à fait.
Ça les agace.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a du lobbying. Il y a un lobbying important pour que, par exemple, certains ils sont pro-nucléaire, d'autres ils veulent à tout prix arrêter le nucléaire. Mmh. Et là, c'est un lobbying très très fort qui se passe vis-à-vis des politiques, des présidents, etc., pour qu'ils changent leur dépendance énergétique. Et c'est là où on voit le rôle des autres pays, on va dire, qui sont pro-nucléaire ou anti, pour passer à d'autres énergies.
Il y a la partie américaine, en tout cas, je serais quand même un peu, parce qu'ils ont quand même baissé, enfin, ils ont joué le jeu. Il faut comprendre que ce sont des acteurs de la guerre en Ukraine, ils sont complètement opposés à la Russie, donc ils veulent pas.
Oui,
faut quand même remettre ça dans un contexte géopolitique plus large. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a le court, moyen, long terme. La France a dit s'il faut qu'on prenne du gaz de schiste, on le fera pour le court terme. Oui. Et notre moyen et long terme, ça sera du nucléaire.
Tout à fait,
les choses sont très claires. Ça embête les Américains qui disent. Ah ben non, nous finalement, on voudrait bien que vous le preniez pour le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que la question, et il faut le dire aussi...
Après le gaz de schiste, pardon, pour rappel, c'est que les États-Unis et le Canada qui l'utilisent actuellement.
Oui, mais ils l'utilisent pour eux déjà.
Tout à fait. Donc, par exemple, l'Algérie, ils ont toujours été contre le gaz de schiste.
Les États-Unis
aimeraient
bien exporter leur gaz de schiste en Europe.
Tout à fait.
J'ai dit pour le Midcat, j'y reviens, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le fameux projet Portugal-Espagne est en capacité d'alimenter trois fois la consommation espagnole et portugaise. La question est de se dire combien on investit, parce qu'en fait ils disent non, on peut livrer mais il n'y a pas les acheminements, c'est ça qui coûte.
Et pour info, c'est sur l'hydrogène et sur les énergies renouvelables,
donc c'est compatible. Et là, pour moi, ce serait intelligent de revenir sur ça, c'est ce que fait la France hein. C'est qu'on revient sur ça, ça agace l'Allemagne et je crois que l'intelligence en fait qui devra sortir, c'est de peut-être adapter il faut que en fait les zones géographiques de l'Europe adaptent leurs ressources en fait. La France elle peut se nourrir.
C'est une nouvelle coalition.
Allez,
qui va
madame,
se passer,
messieurs,
je pense. La
absolument,
France
madame,
plus,
messieurs, nous avançons. Darmanin, Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous savez, qui était l'invité de Cyril Hanouna hier soir. Il a fait plusieurs déclarations sur C8 notamment et il dit vouloir généraliser l'expulsion des familles de délinquants de leur logement social. Que devons-nous comprendre, Maître David Lemesquite?
Alors, moi, franchement, je vous le dis, je suis extrêmement choqué parce que ça veut dire que vous avez un des enfants dans un foyer qui est condamné pour je ne sais pas trafic de stup et le bailleur social, parce que c'est souvent les bailleurs sociaux hein, dont il est question. Va expulser la famille, c'est complètement ridicule.
Je suis pas d'accord.
Voilà,
d'accord.
Il est ridicule. Alors laissez-moi terminer. En l'état du droit, en fait, de toute façon déjà il existe des dispositions, parce qu'il y a la loi de 89 qui réglemente le bail et qui indique en fait que le locataire doit jouir de façon paisible,
oui,
etc.
C'est des conditions générales.
Voilà. Et donc si c'est pas le cas, donc ça veut dire s'il y a un des enfants, par exemple, qui entre guillemets fout le bordel dans le logement social, dans la cité,
comme
etc.
Ça arrive,
la famille peut se faire expulser.
Oui.
Mais en fait, faire payer des gens qui n'ont rien fait à cause en fait
c'est trop simple, c'est
d'un
trop
vilain
simple.
D'un vilain petit canard.
Non,
entre
non,
guillemets.
Non,
attendez,
non.
Laissez-moi terminer.
Laissez-le et après je vous donne la parole.
Laissez-moi
on fait
terminer.
Un tour de table. Laissez-le.
Voilà, je trouve ça complètement injuste. C'est complètement injuste parce que la responsabilité en France elle est personnelle. D'accord.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai fait une faute, je suis responsable personnellement.
Oui.
C'est pas avec ceux que je vis, avec les personnes avec qui je vis dans mon logement, qui font qu'en fin de compte, qu'ils doivent aussi en fait payer mes fautes ou mes erreurs. Quoi. Donc, je trouve ça quand. Enfin, moi, ça me choque.
Rafik Temgari.
Alors, moi, je suis
la déclaration de Darmanin
Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, même si je suis pas pro Darmanin, on va dire. Je suis d'accord avec lui.
T'es
parce
pas loin, t'es à droite quand même.
Oui, tout à fait.
Bah voilà,
je suis à droite. Il n'est pas à droite. Hein. Il n'est pas à droite. Alors, moi, je suis d'accord avec lui parce que tout simplement, qui est responsable de ces enfants-là? C'est leurs parents. La dernière fois, on a eu une discussion, on a dit que l'éducation est assez importante. Oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, on veut vivre en paix. Les Français veulent vivre chez eux en paix, avoir un respect de la loi, et que très souvent, ces personnes-là qui font des bêtises, je dirais ça comme ça, ils passent un petit peu de temps, ou ils sont peut-être punis, et ils reviennent, ils recommettent les mêmes bêtises.
Non,
donc comment faire? Mais si c'est vrai,
regarde
mais
le, taux
si
c'est récidive,
le taux de récidive dans les quartiers est très important. Donc je me dis,
je sais pas
aujourd'hui,
sur quel chiffre tu
on parle pas
des
de chiffres,
alors.
On parle pas de chiffres, mais on parle de réalité. Donc le principe aujourd'hui, pour moi, les parents doivent être responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc demain, quel moyen de pression tu as sur cette
délinquance? Mais en fait, tu veux pénaliser une famille.
Je
en
ne
fait,
veux pas. Je veux donner un exemple pour que famille, les gens puissent respecter la loi.
Si qui veut pas. Le
Varinel.
En fait, la question, c'est j'ai pas à payer de la mauvaise éducation des autres. Moi, j'ai mes enfants. Je fais.
Mais en fait, des fois, tu donnes une bonne éducation à tes enfants, ils font quand même des bêtises. Hein.
Mais oui, mais j'en suis responsable.
Mais ils vont pas.
J'en suis responsable.
Tout à fait.
J'en assume la responsabilité.
Bien dans le micro.
Moi, par contre, ce qui m'embête, c'est le mot généralisé.
Bah,
c'est le mot-clé et c'est ce qui m'agace.
Surtout qu'il ne faut pas se voiler la face.
Que la généralisation, je suis encore
généralisée,
une fois.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est.
Non, ça, on ne met pas tout le monde dans le même sac.
Alors, attendez, laissez-les expliquer. Généraliser,
moi,
pourquoi ça pose problème?
Je dis, le ministre Gérald Darmanin, alors pour le coup, c'est moi qui suis censé côté pro-gouvernement, et là, je ne suis pas du tout d'accord sur ce mot qui est le drame de cette phrase. On ne généralise pas. Je suis désolée. Le droit pénal, c'est au cas par cas. Le traitement des bailleurs, c'est au cas par cas. On a des familles qui sont dans des situations particulières et ça rejoint dans ce que je crois qu'il faut accepter que il y a des moments c'est difficile pour des parents, c'est difficile et en fait la société doit les protéger et les aider. Par contre, quand on a des parents qu'on n'a rien à faire, et ben
les missionnaires,
voilà. Mais le mot généralisé m'embête parce que ça remet toujours les mêmes personnes dans les mêmes situations parce qu'ils parlent dans le logement social. Mais moi, j'habite dans des résidences où il y en a qui foutent le bordel. Il se passe quoi, en fait? Donc, non.
Surtout que...
On va dans le 16e, il se passe quoi? Des gosses de riches qui foutent le bordel à 2h du matin? Non, le mot généralisé m'embête. Et dans cette phrase, je suis désolée, et je serai moins d'accord avec toi, il stigmatise encore une fois...
Ouais, les quartiers populaires.
Quartiers populaires. Et là, no way. C'est inacceptable.
Maître David Dimeskind.
Mais en fait, il y a quelque chose, en fait... c'est quand même... inhumain. Pourquoi c'est inhumain? Parce qu'en fait, une famille qui sera expulsée d'un logement social ne pourra pas réintégrer un logement social. C'est la règle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette famille? Elle va se retrouver à la rue. Quand on connaît, en fait, les prix des loyers dans le logement privé, il n'y aura aucune solution. Donc en fait, puis je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. En fait, vous voulez faire payer un acte de délinquance d'un membre de la famille qui sans doute aura eu une bonne éducation, en fait, aux autres membres de la famille. Parce que, évidemment, je suis d'accord que la question de l'éducation est centrale dans cette histoire. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais après, les enfants de votre bonne éducation, ils en font aussi ce qu'ils veulent, parfois.
Alors, juste pour compléter, très souvent, ce genre de loi sont faites parce que on voudrait que des personnes respectent les élus, respectent les policiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes.
Aucun rapport.
Souvent,
en fait.
Si.
Non, aucun rapport avec la.
Aujourd'hui, en France, quand il y a des personnes qui viennent en France, donc en l'occurrence lui, je pense que sa déclaration a été faite très souvent suite à l'affaire du meurtre de la.
Il faudrait déjà que les policiers de la BAC respectent les habitants des quartiers populaires.
On n'est pas en train de parler des policiers de la BAC, on est en train de parler de façon générale comment le citoyen ne respecte pas ses élus.
Elles sont juste sur la responsabilité des parents. Est-ce qu'elle est en question, la responsabilité des parents?
Mais bien sûr, tout à fait. Ben, c'est ce que je dis dès le départ. Je dis qu'aujourd'hui, les parents qui sont démissionnaires, qui n'éduquent pas leurs enfants et qui les laissent, on peut le voir, des enfants, je dirais même pas, moins de 12 ans.
Mais les parents démissionnaires, l'OVA proposait que la société les accompagne.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les parents qui ont des problèmes, qui ne sont pas démissionnaires, attendez, c'est pas pareil. Démissionnaire, mais écoutez, j'ai habité à Saint-Denis.
Il y a déjà des associations qui accompagnent.
La ligne 13, c'est en galère, machin, t'appelles l'assistante, excusez-moi, je suis en retard de 10 minutes. La dame, elle a une vie, hein. Elle a pas
d'affaire
d'attendre. Non, mais voilà, je suis comme tout le monde.
C'est la plus surchargée.
La dame me dit, quand c'est vous, on sait que vous bossez, c'est compliqué. Je dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, non, parce que, et là, j'avais deux enfants, ça faisait trois fois, parce que très souvent, je suis en retard, je galère, ma nounou, bref. Elle dit, ben, vous voyez là, typiquement, ce sont des parents qui ne travaillent pas, qui nous laissent les enfants. Ils viennent à 19h. On a l'impression de les déranger. Et donc, en fait, j'ai une femme qui me raconte comment, en fait, bien souvent, il y a des parents qui démissionnent. Je considère que.
À ce moment-là. Alors, pourquoi ils démissionnent ?
Non, laisse-moi terminer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 3 enfants, dont la mienne, qui n'a pas respecté l'heure d'accueil pour les enfants. Moi, je suis la maman débordée à ce moment-là, qui doit aller chercher ma fille. Est-ce que les propos de Gérald Darmanin, il dit tous ces gens-là, là, pareil dans le même sac ? Je dis non. Je dis juste que, effectivement.
Au cas par cas.
Il faut voir au cas par cas. C'est notre droit, c'est en l'espèce.
On marque une pause et on se retrouve avec la suite des sujets, puisqu'on doit parler du 49-3, des motions de censure qui sont attendues dans le cadre du débat lundi prochain, et puis les autres sujets. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, justement avec Les Informés. Les Informés, c'est avec Maître David Libeskind, avec Rafik Temgari, mais également aussi avec Lova Rinel. Le budget, le 49-3. L'Assemblée nationale, dès lundi prochain d'ailleurs, 3 heures de débat, les députés justement de l'Alliance, la NUPES, ont déposé une motion de censure, le RN, pareil, et le 49-3. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer ? L'enjeu de tout ça, Lova Rinel.
Il est multiple. Ça grince. C'est la grande question du budget. Il faut savoir que notre loi de finances est assez simple. En fait, elle couvre 97% des dépenses et des dépenses engagées. En fait, si on ne la vote pas, on ne les engage pas. C'est assez simple.
Les fonctionnaires ne sont pas payés.
Non, et donc, mais pas que, en fait, ça. Et la question, c'est de se dire, le 49-3, il sert à quoi ? Ben, il sert, en fait, à éviter cette situation de blocage, le fameux shutdown américain qu'on a eu sous le gouvernement Trump, à bloquer le fonctionnement financier de nos institutions. Alors, ça paraît un peu comme ça, dépassé pour les...
Tu ne peux pas comparer le régime américain.
Non, 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 j'explique. Non, je parle, on imagine. J'explique comment un pays démocratique a vécu à peu près la même chose, c'est ça.
Non.
Maintenant, en France... Non, mais en France...
Alors, vous dirait pourquoi,
bien
non.
David, il est toujours...
France, on n'est effectivement pas dans le shutdown, mais c'est similaire au blocage. Et la question, c'est à quoi sert le 49-3 ? C'est pour éviter ça. Moi, je suis pas là pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je suis en train d'essayer de comprendre à quoi sert de bloquer une loi de finances alors qu'on sait qu'on fait pas partie de la majorité. Voilà, moi j'ai des interrogations qui c'est sont plus de pragmatisme et que finalement l'opposition elle se fait aussi dans les médias, elle se fait dehors.
Il n'y a pas de majorité absolue.
Ça sert à, enfin, je dis donc, à quoi ça sert d'embêter les gens, à perdre du temps. Il y a des vrais sujets parlementaires qu'on préfère avoir sur la table que se chamailler là pendant X temps sur un budget dont on sait qu'il va falloir qu'il passe.
C'est clair. Moi, je pense qu'on n'a pas de majorité absolue.
Mais ça, c'est une réalité.
Le gouvernement. Et le fait qu'ils n'ont pas la majorité absolue, ils essayent de faire un jeu démocratique. Aujourd'hui, l'opposition, ils vont passer la mention. Mais encore une fois, le rôle du gouvernement, c'est de donner, de mettre en place les actions. Donc, s'ils n'ont pas ce budget-là, ils ne peuvent pas travailler. Donc, c'est comme une société, c'est comme une entreprise. Il faudrait mettre en place
Et puis, le chef de l'État, il a besoin d'avancer. Et pour avancer, il a besoin de ça.
Tout à fait.
Sinon, simplement. On ne peut pas aller vers l'avant. Exactement.
Après, moi, je m'interroge.
Je le dis en d'autres termes.
Non, mais
oui,
je m'interroge.
Mais c'est exactement ça.
Pour le coup, s'ils ne sont pas d'accord, après, ça peut être une question bête, mais pourquoi avoir fait 2 motions de censure différentes ? C'est là où on parlait de jeu démocratique. Non, mais encore une fois.
Mais le gouvernement a la responsabilité de donner.
Je suis auditeur chez Beurre FM. Je rentre chez moi, j'ai travaillé toute la journée. On me dit que mon budget va être bloqué. Je ne comprends pas pourquoi, si on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas capable de signer un papier ensemble. Et qu'est-ce qui nous oppose ? C'est ça que les gens veulent comprendre. Il y a le jeu démocratique et il y a la pertinence des outils parlementaires qui, moi, quand j'explique à ma mère, elle me dit non, mais pourquoi ils ne signent pas ensemble le truc ? Je dis leur demander. On sait rien. Et c'est ça, en fait. Je dis pas qu'il faut voter parce qu'on serait pour avis. Je dis que dans l'efficacité, on n'est pas d'accord et je comprends pourquoi on n'est pas d'accord.
Le souci, c'est qu'on n'avance pas.
Il y a plein d'outils parlementaires pour bloquer.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise.
Certains vous diront, tout simplement qu'il n'y a pas de débat démocratique. C'est ce que vous allez dire. Maître Libeskind.
Rappelez-vous quand même le résultat des élections législatives. Les Français n'ont pas voulu accorder de majorité absolue à Emmanuel Macron.
Relative.
Voilà, une majorité relative. Il y a 3 blocs pour faire simple. Il y a la NUPES, il y a le RN et puis il y a Renaissance, Anco, si j'ose dire. Donc, si les Français veulent un dialogue, veulent que les politiques dialoguent entre eux. Ce qui a pété le cas dans la préparation, effectivement, il y a eu quand même des concertations.
Tout le monde le dit.
Voilà. Non, mais de toute façon, le gouvernement était quand même obligé.
Mais donc, il y a un débat démocratique.
Non, mais c'est pas un débat, en fait.
Vous savez que les motions de censure seront débattues justement lundi prochain.
Non, mais il n'y a pas eu de débat parce que c'est toujours la même chose. Vous avez des amendements qui sont faits. Par exemple, il y a l'amendement sur les super profits, là, qui avait été voté en plus par LR, enfin une partie de LR.
Ça a été voté suite à un débat démocratique.
Il y avait une vraie concertation entre les différents partis politiques de l'Assemblée nationale. Ça a été voté. Et bah Emmanuel Macron n'en veut pas, il l'a dit lui-même. Il n'y aura pas de taxe sur les super profits, donc le gouvernement va pas le prendre en compte. C'est toujours pareil en fait. Le gouvernement fait un pseudo, une pseudo concertation, un pseudo débat, mais ne reprend jamais en fait les propositions des uns et des autres. Alors là, effectivement, on est dans une loi importante puisque c'est le budget de la nation, mais ça reste quand même une loi politique. Hein. Il y a les recettes toujours. Et les dépenses Comment les évaluer? Il y a un programme de dépenses, donc il y a un programme politique.
Faisons un tour de table parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Laura Rinel, un tour de table sur ça. La simple question, lundi prochain, on va débattre de ces motions de censure. Est-ce que ça sert à quelque chose de parler des motions de censure?
Non, mais
je vois effectivement ça va.
L'Assemblée nationale est faite pour débattre des différents textes qui sont soumis aux discussions de l'Assemblée nationale. Donc débattons-en, je pense que c'est important. Maintenant, je dis que dans tous les problèmes qu'on vient aborder par ailleurs juste avant, est-ce que on sait qu'ils vont pas être d'accord? En fait, je dis, ils vont pas la voter. La question, c'est de se dire pourquoi avoir fait plusieurs motions de censure et perdre 14 heures là à expliquer je suis pas d'accord, alors qu'il y a plein de sujets sur lesquels, en fait, les partis nécessiteraient plus d'explications sur des situations politiques bien concrètes, et je trouve que c'est dommage. Mais ce n'est c'est que dommage. Mon avis.
Motion de censure qui en plein débat.
Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir deux chambres où il y a eu des échanges démocratiques, que ce soit au Parlement ou même après au Sénat. Donc, je me dis que c'est très important de suivre ce processus. Après, maintenant, le temps qu'on perd, je pense que si on est au gouvernement, si on était à leur place, je pense que j'utiliserais sans faille le 49.3.
La NUPES compris, la droite compris, exactement. Tout le monde le ferait.
Donc, parler des faudrait... motions de censure, ça part.
Exactement.
Et pourtant, ils vont en parler.
Certainement, parce que c'est le jeu démocratique. Mais il faut avancer.
Non, mais elles passeront jamais, puisque.
On parle des motions de censure.
Elles passeront pas, les motions de censure.
Il y a deux motions de censure.
C'est ce que je dis.
Il y en a deux. Donc, la motion de censure du RN. Donc, le RN va voter pour sa motion de censure. Il y a la motion de censure de la NUPES. Donc, la NUPES, en fait, va voter pour sa motion de censure.
Donc, ça ne sera pas adopté.
Il faut 289 députés, en fait.
Ils les ont pas.
C'est ce que je dis.
Donc, il n'y aura pas de motion de censure.
Non, ça ne passera jamais.
Et donc, il n'y a pas de motion de
censure. La motion ne passera pas.
Non, parce qu'il y en a deux.
Oui, il y en a deux, mais il n'y a pas de voix suffisante, c'est ce que
tu
dis.
Non, je dis, je ne vois pas.
Donc, il n'y aura pas. Donc finalement, elle a raison.
Tout à fait.
Quel intérêt?
Tout
ça pour ça?
C'est la démocratie. C'est comme ça, c'est la démocratie.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une motion de censure votée, c'est le renversement du gouvernement.
Oui, il faut 240.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Il faut 240.
Le gouvernement, il n'y a pas. Et encore une fois, je dis.
Renversement du gouvernement, ça veut dire dissolution de l'Assemblée.
Non. On change de Premier ministre.
Ah oui, on change de Premier ministre. Vous avez raison, si, c'est vrai.
Et donc, discussion. Et donc, ma question, c'est, on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Attention. Allons
jusqu'au
bout.
C'est important ce que vous dites. Si la motion de censure passe,
il y
a un changement de Premier ministre.
Oui, mais c'est impossible.
Non, mais c'est impossible. Et c'est pour ça que je dis.
C'est impossible.
Non, mais
que le temps qu'ils sont en train de.
Mais vous l'avez dit. Si on change, si la motion de censure passe, changement de Premier ministre.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est pas le cas, on est loin de ça. Absolument.
Oui, merci. Mais c'était impossible entre le RN et la NUP.
Merci, monsieur.
Au départ, c'était pas ce qu'il avait dit.
Madame,
le RN disait qu'elle allait signer la motion de censure de la NUP.
Merci à Laura Rinel. Quel plaisir de débattre
avec vous.
Je vais jusqu'à 21h.
Allez, yalla.
Merci. Je pense qu'on reviendra.
Merci à Rafik Temgari.
Merci à Adil.
Merci à Maître David Libeskid. À la réalisation, c'était Salem et son collègue.
Merci, l'équipe.
Merci à vous.
Très bon week-end.
Très, très bon week-end et très bonnes vacances aussi.
Et aussi.
On ne lâche rien.
Ciao. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.